Vous écoutez RTL.
Bonjour et bienvenue dans ce nouveau numéro de Confidentiel. Ravi de vous retrouver en ce début d'après-midi sur RTL, l'heure à laquelle nous partons à la rencontre d'une personnalité. Les premiers pas jusqu'au sacre, les honneurs, les acclamations, puis parfois les accidents de la vie, la chute, la déchéance. Quand la roue du destin se met à tourner à l'envers, c'est ce qui est arrivé à cet Américain, bardé de médailles et de maillots jaunes, célébré comme le plus grand cycliste de tous les temps, mais consumé en son fort intérieur par des secrets inavouables, des dissimulations, une double vie que lui-même avait organisée depuis l'enfance. Le mensonge sur la plus haute marche du podium, Confidentiel Lance Armstrong, c'est tout de suite sur RTL.
RTL, Jean-Alphonse Richard, Confidentiel.
Lance Armstrong n'a jamais su où était la vérité. Dès l'enfance, il a appris à dissimuler son identité. La suite ne fut fatalement qu'une course effrénée au mensonge, ni sincérité ni fidélité, juste l'obsession d'être le plus fort, à n'importe quel prix, au point de ne plus distinguer la frontière qui sépare le bien du mal. Lance ne s'appelle pas Armstrong quand il voit le jour le 18 septembre 1971 à la clinique méthodiste de Plano au Texas, mais Lance Edward Gunderson. C'est un bébé de 4,4 kg dont la tête trop plate et trop longue inquiète ses parents. « Ça s'arrangera, tout ira bien », répond la sœur infirmière au papa de l'enfant, Sonny Gunderson, et à la maman, Linda. Un couple d'adolescents, ils ont tous les deux 17 ans, ils se sont connus sur les bancs du collège et ont décidé de vivre ensemble. Le futur Lance Armstrong doit son prénom à un footballeur américain, Lance Renzel, qui brille sur les terrains, mais qui est aussi connu de la justice pour s'être exhibé devant une petite fille. Mais qu'importe, malgré cette réputation sulfureuse, ce garçon s'appellera bien Lance. Les Gunderson ne roulent pas sur l'or. Sonny livre des journaux, Linda a un job de vendeuse dans une épicerie. Bien plus tard, Linda transformera ce passé en un récit à la Zola. La pauvreté, un jeune mari délinquant est porté sur l'alcool. « Tout était contre nous, il fallait survivre », répétera Linda, posant là la première pierre de la légende Armstrong, fils de rien, devenu le plus grand des champions. Lance ne connaîtra jamais ce père biologique. Ses parents divorcent quand il a 2 ans et demi. Un peu moins de 2 ans plus tard, il devient officiellement Lance Armstrong pour l'état civil. Sa mère a coupé tous les ponts avec son ancienne belle famille. Elle s'est remariée à Terry Armstrong, marchand de saucisses pour les cantines scolaires. La famille habite dans un appartement de Richardson, la banlieue nord de Dallas, puis occupe une modeste maison de briques dans le quartier de Los Rios à Plano. Même si Terry Armstrong adoptera Lance et offrira à la famille un certain confort, Linda, jouant avec les dates, affirmera avoir mené une existence de célibataire. Lance Armstrong s'accommodera de cet arrangement avec la réalité destinée à faire pleurer dans les chaumières américaines et prendra même le relais. Il ne se privera pas de décrire une éducation à la dure, sans ménagement et sans amour, une enfance en jachère où son nouveau père lui interdisait de pleurer et où il fallait toujours coûte que coûte se relever.
RTL Confidentiel.
Lance Armstrong est un élève médiocre, peu assidu, qui cherche en permanence la bagarre et ne se fait pas d'amis. Il fait partie de l'équipe de foot de l'école, mais il est incapable de jouer avec les autres, ne supportant pas la moindre erreur de ses camarades. Jouer collectif est un commandement qui lui est étranger. Lance se lance donc à corps perdu dans la natation, dans le bassin, dès 6 heures du matin et après les cours du soir. À 10 ans, il nage plus vite que des garçons plus âgés que lui. 2 ans plus tard, Lance Armstrong participe au championnat de natation au Texas où Kerry Armstrong l'accompagne. Sa mère, Linda, n'a pas pu venir. Lors de ce voyage, le jeune garçon va perdre toutes ses illusions sur ce père adoptif qu'il craint et qui veut faire de lui un champion. Il le surprend en train d'écrire un mot d'amour à une femme, une maîtresse. Il ne dira rien à sa mère pour ne pas lui faire de la peine. Lance saura ce jour-là que tout le monde, même un homme qui vous a donné son nom, peut mentir et que la dissimulation, au fond, est dans la nature humaine. Lance Armstrong grandit comme un adolescent le plus souvent livré à lui-même, colérique et violent. Un seul homme trouve grâce à ses yeux. Il s'appelle Rick Crawford, un champion de triathlon. C'est lui qui incite Lance à se lancer dans cette discipline solitaire et encore confidentielle. « Je veux gagner de l'argent et des courses. Dites-moi ce que je dois faire », demande l'adolescent. 25 heures d'entraînement par semaine, vélo, course à pied et natation dans l'eau glacée d'une piscine. À 14 ans, Lance Armstrong remporte sa première compétition, l'Iron Kids, et empoche le trophée, une paire de baskets. Il a déjà la marque des grands champions. Il ne se repose jamais. Lance Armstrong, surdoué de l'effort et résistant à la douleur, devient un jeune homme de fer, même si la violence qu'il porte fait davantage parler de lui que les trophées gagnés. Un jour, il détruit tout un bungalow à coups de batte de baseball. Un autre, il jette dans un fossé un vélo dernier cri prêté par un magasin de sport à cause d'une simple crevaison. Il sèmera la police de Dallas sur l'autoroute après une nuit de fête arrosée. Et couvrira même d'injures son propre père en pleine compétition devant tout le monde. « Je hais ce type », répétera-t-il. « Exprime-toi avec tes jambes, pas avec ta grande gueule », lui lancera un de ses premiers entraîneurs. À 16 ans, grâce à ses jambes d'acier et à ses victoires dans les triathlons régionaux, l'infréquentable Lance Armstrong gagne déjà 1 000 $ par mois. Mais il veut plus d'argent. Plus de félicitations, plus de gloire, son orgueil n'a pas de mesure, il est persuadé d'être le plus fort. 2 ans plus tard, il va trouver la clé du succès, celle qui l'entraînera aussi dans des abîmes toxiques, la course cycliste. Bicycle, bicycle.
Confidentiel.
Sur RTL.
Les tout premiers pas du champion Lance Armstrong avec déjà cette hargne, cette violence qu'il a parfois du mal à canaliser, ce sentiment de toute puissance qui lui jouera plus tard de bien mauvais tours. On en parle dans ce confidentiel avec notre invité Pierre Ballester. Bonjour et bienvenue sur RTL.
Bonjour, merci.
Pierre Ballester, vous êtes journaliste. Vous avez sorti en 2004 avec David Walsh aux éditions de La Martinière. Elle est confidentielle, les secrets de Lance Armstrong. Elle est évidemment pour Lance Armstrong, ce sont ses initiales. Enquête qui a fait l'effet d'une bombe, l'une des toutes premières à révéler l'envers du décor sur le dopage du champion. On va bien sûr longuement aborder cette dérive dans les chapitres suivants de l'émission, mais tout de suite, Pierre Ballester, une enfance dans le désordre. Pourquoi Lance Armstrong décide-t-il de se lancer finalement dans le vélo ?
Ah, il hésite parce que d'abord c'est pas son patrimoine génétique en premier lieu. Alors c'est vrai qu'on a tous des accidents, des parcours un peu cabossés. Le sien, c'est que il a été très vite brutalisé par son beau-père. Il le battait et donc il s'est isolé, il s'est muré et il a trouvé, comme beaucoup, souvent un viatique, un exutoire, hein, une catharsis, voire par le sport. Et donc en premier lieu, c'était le triathlon. Quant au vélo, l'une des disciplines du triathlon, il n'était pas le plus imposant, le plus spectaculaire parce qu'il avait déjà une morphologie de, on va dire bodybuilder, mais il était assez corpulent. Et voilà, il avait un haut du corps assez imposant, ce qui en cyclisme est un peu rédhibitoire. Il était assez lourd en fait.
En quoi apparaît-il si jeune, Lance Armstrong, comme un leader ?
Alors, il y a ce côté bulldog, ce côté texan, des résultats qui arrivent assez vite, et il a une personnalité naissante très affirmée, très volontaire, une envie farouche de réussir. Dès les rangs juniors, d'ailleurs, il n'impose pas encore ses vues, mais il donne ses avis plutôt tranchés. Donc, c'est une personnalité un peu anguleuse, déjà, qui va s'améliorer au fil des ans.
On peut dire qu'il n'a pas été très conseillé en matière de morale, Lance Armstrong.
Je crois que sa mère était très maternelle. Bon, alors, évidemment, le patrimoine paternel n'était pas, effectivement, exempt de tout reproche dans son épanouissement personnel, dans son émancipation personnelle. Il a trouvé ce viatique qui était le sport.
Parce que si je vous pose la question, Pierre Ballester, c'est qu'on a l'impression qu'avec Lance Armstrong, il y a assez vite d'ailleurs, pas de limite, il est capable de tout. Vrai ou faux ?
C'est le propre du cycliste qui dépasse les bornes, justement. Lui, il l'a fait allègrement. C'est une volonté farouche qui, avec les premiers résultats, voyant que bah, effectivement ça fonctionnait, il n'y a pas de raison de s'en départir. Je me souviens d'une fois où je l'avais rencontré à l'occasion et il me disait que le monde n'est pas parfait. Donc il voulait dire de manière induite, moi non plus, je suis pas parfait. Voilà. Et donc, la morale, vous savez, la morale dans le monde du sport, franchement, c'est un peu incompatible. Hein. Et dès l'instant qu'on permet, on permettait à l'époque de respecter la devise olympique qui était situs solvius fortius, autrement dit, plus vite, plus haut, plus fort, quels que soient les moyens, il ne s'en est pas privé, effectivement.
RTL confidentiel.
Jean-Alphonse Richard.
Lance Armstrong a 18 ans. Et c'est déjà un athlète hors norme. Sa puissance semble illimitée. Lors d'un test destiné à mesurer sa consommation d'oxygène lors de l'effort, les experts n'en reviennent pas. Ils ont rarement noté une telle capacité respiratoire chez un sportif. Le triathlon est devenu trop petit pour lui. Seul le vélo, où il excelle, peut lui assurer célébrité, sponsor et même une médaille olympique. Lance Armstrong quitte donc sa ville de Plano, le lycée et sa mère, sur le point de se remarier une troisième fois, pour s'installer à Austin, au Texas. Ici, sous la coupe d'un ancien avocat devenu soigneur sportif, John Thomas Neal, Armstrong découvre la liberté, la musique, les filles et l'alcool. Et ici aussi, il ne tarde pas à faire parler de lui. Ivre au volant, après une soirée de débauche passée dans un jacuzzi d'un appartement, il se retrouve placé en cellule et menacé de poursuite. Son soigneur protecteur se portera caution et lui évitera le tribunal. Armstrong fait la fête, mais écrase tout le monde lors des entraînements. Le voilà admis dans l'équipe nationale junior de cyclisme. Il devient champion amateur des États-Unis et dans la foulée, bat successivement les pros lors de deux courses prestigieuses. Autant dire que les propositions vont se bousculer. Les écuries professionnelles les plus en vue souhaitant mettre la main au plus vite sur Superman, comme on l'appelle déjà. C'est dans ces années d'apprentissage que Lance Armstrong franchit pour la première fois une ligne rouge dont on ne revient pas. Sans doute est-il persuadé que pour être le meilleur, il est nécessaire de flirter avec l'interdit. Il reçoit donc, sans vraiment se poser de questions, ses premières injections de vitamines. Elles permettent de booster les muscles et de garder le corps tonique. Aux Jeux Olympiques de Barcelone, en 1992, Lance sera surpris par un de ses coéquipiers, allongé et sous perfusion, sous le regard du staff de l'équipe olympique. L'histoire restera secrète. Personne ne saura jamais quel cocktail, ce jour-là, lui fut injecté. Lance Armstrong, qui va vite effacer le pionnier du cyclisme américain, le modeste et amical Greg LeMond, est le candidat idéal pour les thérapeutes de tout poil. Il s'intéresse lui-même aux secrets du corps et à ceux de la performance. Il est avide de conseils et n'hésite pas à prendre tous les risques en s'entourant systématiquement de soigneurs miracles, sans savoir s'ils sont vraiment Dr. Jekyll ou Mr. Hyde. Armstrong n'a peur de rien. La nouvelle star de l'équipe professionnelle Motorola réclame même les services du meilleur préparateur physique du moment. Un masseur américain installé en Belgique passé maître dans l'art de fabriquer des potions magiques sur mesure. Éphédrine, nicotine, caféine concentrée, de quoi dilater tous les vaisseaux, en capsule ou en piqûre. Quelque temps plus tard, c'est un médecin italien installé à Bologne, surnommé Dottore Miracolo, le docteur Miracle, qui s'occupe de l'Américain. Au fil des années, Lance Armstrong devient son propre prescripteur, convaincu que la chimie est le gage nécessaire pour décrocher la victoire. En 1995, Armstrong franchit donc sans la moindre appréhension un cap ultime et appelé de ses vœux les premières injections d'EPO, cette substance destinée aux déficients rénaux qui est en train de faire des ravages dans le peloton.
RTL Matin.
Bonjour, c'est Yves Calvi. Je vous donne rendez-vous chaque jour à partir de 7h pour RTL Matin. Les informations du jour, du bon sens, de la curiosité, avec nos journalistes, nos éditorialistes et nos invités. RTL Matin, c'est chaque jour de 7h à
9h30. RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Lance Armstrong se dope, mais pratique la loi du silence. Un jour prochain, il sera obligé de mentir. Pour le moment, c'est l'omerta. On ignore ou on fait mine d'ignorer la dérive du jeune champion. Le poison coule dans ses veines, mais Armstrong passe entre les gouttes. Pas inquiété, pas repéré, d'autant plus que l'épreuve qui arrive va tout bonnement le rendre intouchable. Ce 2 octobre 1996, vers 1h de l'après-midi, après avoir déjeuné dans son restaurant favori d'Austin, la Taverne, Lance Armstrong ressent une douleur à l'estomac. Ces derniers mois, il était inhabituellement fatigué. C'est la première fois que le champion 25 ans, 7e meilleur coureur mondial, marque le pas. Au mois de juillet, il a été incapable de terminer le Tour de France, foudroyé en plein été par une bronchite. Le diagnostic, cette fois, est alarmant. Le cycliste souffre d'un cancer des testicules avec des métastases dans les poumons. Il est transféré dans un hôpital d'Indianapolis. Armstrong est en danger de mort. Ce cancer est-il la conséquence de ses premières années de dopage? Rien ne le prouvera. Mais à l'époque, tous ceux qui ont participé de près ou de loin aux injections d'EPO tremblent. Le coureur a moins de 50% de chances de s'en sortir. Tout le monde redoute une issue fatale et un scandale. Le fameux préparateur belge disparaît même de la circulation. Dans sa chambre, Lance Armstrong a déclaré la guerre à la maladie. Il peut compter sur sa nouvelle petite amie, Lisa Shields, une étudiante qui passe ses journées et ses nuits à l'hôpital. Avant elle, les liaisons s'étaient enchaînées. Il y avait eu une certaine Sony qu'il fréquentait alors qu'il s'entraînait près du lac de Côme, puis Daniela, une néerlandaise rencontrée à Las Vegas. Avec Lisa, c'est différent. Lance Armstrong souhaite se marier et avoir des enfants. « Si elle m'a accompagné dans toutes ces épreuves, elle ne me lâchera jamais », dit-il. Mais Lance ne tient pas parole. Au printemps 1997, Lisa, en pleurs, rejoint la liste des liaisons sans lendemain. Lance traite les gens comme des bananes. Il mange ce qui lui plaît et jette le reste sur le bord de la route, dira une amie de la jeune femme. Armstrong ne se préoccupe guère des états d'âme d'une prétendante. Il est euphorique. Contre toute attente, il vient de triompher du cancer et c'est un nouveau chapitre de sa légende qu'il s'apprête à écrire. Il y avait l'enfance chaotique, puis la rédemption à travers le sport et la naissance d'un champion. Voici désormais le miracle. Lance Armstrong est un ressuscité. Ses amis l'appellent Jésus. Les malades du cancer voient en cette rémission toutes les raisons d'espérer. L'Armstrong Mania est en marche, même si le cycliste a toujours détesté les groupies et les chasseurs d'autographes. « Je n'aime pas la foule, je n'aime pas les gens », dit-il. Dans une dizaine d'années, ce sont les gens qui ne vont plus l'aimer.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Lance Armstrong et son pacte secret avec le dopage, ces substances désormais injectées dans son corps de champion, à l'abri des regards et sans doute aussi en toute hypocrisie. On en parle dans ce confidentiel Lance Armstrong avec notre invité Pierre Ballester. Pierre Ballester, très jeune, Lance Armstrong apparaît comme le candidat idéal, j'allais dire presque cobaye. Pour le dopage.
Il a eu des prédécesseurs, hein, rassurez-vous. En fait, lui, il arrive sur un, j'allais dire sur un marché, en tout cas sur une discipline qui est confrontée au dopage depuis très très longtemps, depuis que le Tour de France est
c'est historique,
est
disons.
Oui, c'est consubstantiel à l'espèce cycliste, comme disait un ancien directeur du Tour. Il arrive au sein d'une équipe américaine avec ses armes, et ses armes, elles sont plutôt naturelles. Et il s'aperçoit que voilà, la comparaison est vite défavorable, et il ne gagne rien. Donc il a dû s'imprégner de la culture du vélo, qui est profondément européenne, pour constater effectivement, voilà, il faut utiliser des expédients, autrement dit le dopage, pour se mettre à minima au niveau des autres. Mais lui, ça ne lui suffit pas d'être au niveau des autres, c'est de les dépasser et d'être le premier d'être
là. Il faut être au-dessus.
Il faut être au-dessus, invariablement.
Et c'est pour ça, Pierre Ballester, que lui-même est demandeur de ces produits.
Il a été assez vite demandeur dès sa troisième année professionnelle, constatant effectivement que ses qualités naturelles ne suffisaient pas à se faire une belle place. Eh bien, il a été à la recherche d'infos et il s'est dirigé peu ou prou vers le fameux docteur Ferrari, le docteur italien, qui lui, effectivement, lui a prodigué les bons soins, entre guillemets, du dopage à titre exclusif.
Voilà, le fameux docteur miracle, comme on l'a parfois appelé. Est-ce qu'on sait ce qu'a pris Armstrong comme produit? Je pense que la liste est très longue, mais...
Elle n'est pas si longue, parce qu'on a toujours dit que c'était extraordinaire ou très spectaculaire. Non, ni plus ni moins que les autres. Bien évidemment, le PO, c'est aussi de la testostérone, c'est aussi des corticoïdes, de l'hormone de croissance. Rien de spectaculaire, franchement. Ce qui était spectaculaire, c'est que dès l'instant qu'il a décidé de franchir le pas, allègrement, il n'y avait pas de question de principe ou de conscience ou de morale, encore moins.
Oui, il s'est pas posé
parce qu'il n'y a pas de morale dans le sport professionnel en tant que tel. Et donc, il a tout donné pour essayer de parvenir à ses fins.
Alors là, nous sommes au cœur vraiment du mensonge Lance Armstrong. Vous qui l'avez côtoyé, qui l'avez connu, qui avez écrit sur lui, comment le vit-il ce mensonge?
Mais j'allais dire comme, par exemple, du personnel politique qui dénie avoir trempé dans un trafic de conflits d'intérêts ou d'emplois fictifs, on en a connu. C'est à peu près le même principe.
On est dans le déni.
Mais on est dans le déni parce que c'est sa seule chance de survie. J'allais dire, c'est contre nature. Dès l'instant où vous rentrez dans le monde du dopage, il y a une omerta qui se crée, vous ne plus en sortir.
Alors vous avez été, Pierre Ballester, l'un des premiers, je le disais, à dénoncer le dopage de Lance Armstrong. Quelle a été sa réponse à l'époque?
Le déni, l'attaque, est très offensif. C'est des principes, je veux dire, qui sont du ressort du mafieux. On achète le silence des gens, on règle à l'amiable quand il y a des contentieux, et on intimide, et on menace. Sauf qu'il n'y a pas de redevabilité. Et c'est ça qui l'a perdu d'ailleurs, c'est de ne pas avoir été redevable, notamment avec l'un de ses anciens coéquipiers, qui lui a mis le feu aux poudres jusqu'à ses aveux en 2012.
RTL. Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
Lance Armstrong a terrassé le cancer et trouvé l'amour. Elle s'appelle Christine Richard, attachée de presse et fille de bonne famille. Ils se sont rencontrés lors du lancement de la fondation Armstrong contre le cancer, alors que le cycliste sortait de chimiothérapie. Le 8 mai 1998, il se marie à Santa Barbara. De crainte d'être devenu infertile à cause de la maladie, Lance avait fait congeler ses spermatozoïdes. Un petit garçon, Luke, né l'année suivante, les jumelles Isabelle et Grace suivront sans avoir recours cette fois au processus d'insémination. Christine apparaît ainsi comme l'épouse modèle et dévouée de Lance Armstrong, adoucissant l'image arrogante d'un mari à la réputation de pitbull. 5 ans plus tard, sans prévenir, Lance demandera le divorce. Christine sera effondrée, mais ne dira jamais un mot sur le champion. Avant de s'effacer, l'épouse fidèle aura assisté au triomphe du plus grand cycliste de tous les temps, avec lui, au pied des Champs-Élysées, pour célébrer les 5 premières victoires de son mari au Tour de France, course que Lance remportera encore à 2 reprises. En ce début des années 2000, tout va bien pour Lance Armstrong. En dépit de ses coups de gueule, il sait soigner son image. C'est un héros positif. Un homme qui a fait connaître le vélo à des millions d'Américains qui ignoraient tout de ce sport et qui veulent à présent lui ressembler. Sa fondation contre le cancer a récolté en seulement 6 mois 25 millions de dollars en vendant des petits bracelets de couleur jaune, la couleur de son maillot fétiche. Côté court, la presse People s'intéresse à Armstrong, sportif au physique tranchant comme une lame, millionnaire qui se déplace en jet privé, apparaît dans les boîtes de nuit à la mode et les soirées de la jet set. Un mois après son divorce, lors d'un gala de charité organisé par son ami, le tennisman André Agassi, Lance Armstrong rencontre la chanteuse de country Sheryl Crow. Cette romance ajoute son lot de paillettes à la carrière du champion, mais au bout de 2 ans, comme les précédentes, il la quitte. Sheryl Crow n'aura pas d'enfant avec Armstrong. Suivront d'autres blondes, la styliste Tori Burch, les actrices Ashley Oslen et Kate Hudson, de quoi parfaire la réputation sentimentale de Lance Armstrong, amant insatiable et irrésolu.
Confidentiel.
Confidentiel.
Sur RTL.
La vie de Lance Armstrong est digne des stars d'Hollywood. Ses seuls sponsors lui assurent une rente annuelle de presque 80 millions de dollars. Il possède une immense villa de style colonial à Austin, où un salon est décoré de ses 7 maillots jaunes. La demeure vaut 10 millions de dollars et tous les caprices du champion ont été exaucés, y compris replanté pour 200 000 dollars, un chêne centenaire plus près de l'entrée. À New York, Armstrong loue aussi un majestueux duplex occupé avant lui par Liza Minnelli et dans lequel Lady Gaga lui succédera quand le masque du champion tombera, révélant au monde entier un tout autre visage, celui du plus grand des menteurs. Dès les premières victoires, Lance Armstrong a attiré la suspicion. Des articles de presse et des livres ont détaillé des accusations de dopage. Chaque fois, le champion lâche systématiquement une armée d'avocats et dément toute prise de produits illicites. Quand les langues de ses anciens collaborateurs et équipiers chez Motorola et US Postal se délient, Lance Armstrong reste sur ses positions. Pendant 2 ans, il nie. Si on l'attaque, dit-il, c'est qu'on cherche à le détruire. Pas de preuves, ses sponsors continuent à lui faire confiance, tout comme le conseil d'administration de sa fondation. Le 24 août 2012, la digue craque. L'agence antidopage américaine rend le rapport Armstrong, parle d'un système sophistiqué de dopage jamais vu auparavant mis en place autour du coureur. L'enquête compte 26 témoignages à charge. Lance Armstrong y apparaît comme le maillon fort d'une entreprise de triche. Même Sheryl Crow aurait indiqué avoir assisté à une mystérieuse transfusion sanguine dans le jet privé qui les emmenait en Belgique. Lance lui aurait alors expliqué que tous les cyclistes faisaient la même chose. Le coureur parle d'investigation partiale, ne reconnaît pas s'être drogué, mais c'est déjà trop tard. Ses titres lui sont retirés. Lance Armstrong n'a plus sa place dans le cyclisme, dit la Fédération internationale. Le plus grand cycliste de tous les temps est un banni qui refuse d'avouer. Armstrong se cache. Peut-être espère-t-il qu'en faisant profil bas, on va l'oublier. Mais c'est tout le contraire. Le scandale enfle. Aux États-Unis, où le mensonge est érigé en péché et en crime, Armstrong risque désormais d'être convoqué devant un tribunal et peut-être d'aller en prison. La présentatrice star de la télé américaine, Oprah Winfrey, amie de longue date du cycliste, n'a cessé de le solliciter. Armstrong la reçoit 6 mois plus tard dans la maison d'Austin, juste avant que la justice ne déclenche des poursuites. Le 17 janvier 2013, l'Amérique stupéfaite découvre la face cachée d'un héros. Les transfusions, les hormones, la cortisone, le PO. C'était une erreur, je paye le prix pour tout ça. J'ai pris ces drogues car tout était bon pour gagner, dit-il. Cinq mois après l'aveu, le 7 juin 2013, à 4h15 du matin, Lance Armstrong incognito quitte en voiture sa villa d'Austin avec sa dernière compagne, Anna Hansen, avec qui il a eu deux petits garçons, Maxwell et Ronaldo. Direction Hawaï. La veille, les déménageurs ont fini de vider la propriété. Armstrong a tout vendu. Il part sans se retourner, à l'abri des caméras et des photographes, alors qu'un juge a décidé de le renvoyer devant un tribunal. Mais le procès Armstrong n'aura pas lieu. Le champion versera presque 10 millions de dollars de dédommagement en guise d'arrangement. « Si je n'avais rien dit, rien de tout cela ne serait arrivé. Rien du tout. C'est comme si c'était ce que je voulais. Je voulais qu'on m'attrape. J'étais une proie facile », expliquera Lance Armstrong à la télé américaine sans jamais faire réellement acte de contrition. On apercevra désormais sa silhouette que lors des courses de charité au bénéfice de la lutte contre les maladies rares ou la leucémie.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel sur RTL.
Armstrong vit désormais à Aspen, dans les montagnes du Colorado. On peut le croiser le dimanche sur ses routes larges et sinueuses. Il ressemble à n'importe quel cyclotouriste anonyme. Lance Armstrong n'existe plus dans les palmarès officiels du cyclisme des années 2000. Son nom est effacé. Les deuxièmes ont pris sa place. Ces sept maillots jaunes, ceux qui trônaient dans la villa du Texas, les témoins de sept mensonges lui ont été retirés, mais Lance Armstrong ne les a jamais rendus. Et personne ne les lui prendra. Ils sont à jamais la propriété de Armstrong, champion sans peur et sans remords. Si je ne les ai pas gagnés, alors dites-moi, qui les a gagnés ?
Quand on partait de bon matin, quand on partait sur les chemins, à bicyclette.
RTL.
Jean-Alphonse Richard.
Confidentiel.
La chute vertigineuse du champion des champions, Lance Armstrong. On est toujours dans le studio de Confidentiel sur RTL avec notre invité Pierre Ballester, auteur du fameux livre « Elle est confidentielle » qui a fait éclater le scandale autour du dopage d'Armstrong. Pierre Ballester, pourquoi Armstrong continue-t-il à mentir contre vents et marées, même quand la Fédération américaine l'a dénoncé, même quand on sait qu'il n'y a plus vraiment de mystère autour de son dopage?
S'il avait dit la vérité, c'était le gouffre. Tout était perdu, pas seulement sa carrière de cycliste, pas seulement son rôle d'ambassadeur de la lutte contre le cancer. Rappelez-vous, il avait eu cancer, et il s'était remis très très vite d'ailleurs, au bout de 3 semaines.
Cancer qui a été déterminant aussi dans sa construction.
Totalement. Ça a été un déclic, le déclencheur, pour dire que voilà, j'ai des années de bonus. Il avait déjà un mental hors norme, et là, son mental est devenu en métal. Et il n'est pas le premier à nier jusqu'à la désespérance. Et après, il y a eu un flot, voilà, la digue était brisée. Il ne pouvait faire qu'avouer pour tenter de sauver les meubles.
Alors, il y a cette fameuse confession chez Oprah Winfrey, à la télévision, là où vraiment il vide son sac, si on peut dire. Est-ce que c'est sincère ou bien chaque mot est calculé?
C'était du Armstrong. Aucune perle d'émotion. C'était mécanique, clinique, métallique. C'était Armstrong. Pas une once de remords, de tristesse, de regret. Armstrong, encore une fois, c'est un type brillant, intelligent. Franchement, on pouvait parler de toute autre chose que de cyclisme. Mais quand il est déterminé, rien ne pouvait l'arrêter. Même presque la mort.
En quoi, Pierre Ballester, y a-t-il dans le cyclisme un avant et un après Armstrong?
Ça veut dire qu'il y a eu une période de dopage et maintenant il n'y a plus de dopage. Bon, je suis un peu circonspect sur la question.
Dis. Est-ce que les mentalités ont évolué quand même? Est-ce qu'il y a eu un choc Armstrong?
Il y a eu une secousse tellurique, effectivement, dès l'instant qu'il y a eu ses aveux, et puis sa chute, très, très spectaculaire, très rapide, en 3 mois de temps. Armstrong était honni, notamment aux États-Unis, où il était considéré non pas comme le vainqueur du Tour de France à cette reprise, mais comme le survivant du cancer. Et là, il y a eu mystification totale. Il a été honni de part et d'autre. Bon, il se refait la cerise depuis peu. Un avant et un après, moi je pense qu'il y a plein de petits Armstrong qui circulent encore et toujours. Il n'y a pas de raison que le dopage ait cessé avec la fin de carrière de Lance Armstrong.
Vous disiez, il s'est refait la cerise. Lance Armstrong, qu'est-ce qu'il devient aujourd'hui?
Il vit notamment de ses rentes, parce qu'il en a encore, de podcast en podcast. Il donne son avis, mais qui est toujours pertinent, je trouve. Et il n'a pas tout perdu, loin de là. Il devait avoir un procès fleuve il y a 2 ans, et qui s'est réglé là encore à l'amiable. Puis avec le temps, on oublie, on pardonne, on se ramollit, et c'est du passé. Mais je me permets juste cette dernière phrase qui m'était revenue d'un enfant de 8 ans que j'avais rencontré sur une épreuve cycliste. Et quand lui parlait d'Armstrong, il disait « Il s'est dopé, mais il a gagné. » Il ne disait pas « Il a gagné, mais il s'est dopé. » Et toute la nuance est là. Et c'est ce qu'on retient de Lance Armstrong.
Merci Pierre Ballester pour votre éclairage très précis sur le mensonge Armstrong.